Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Le psaume chapitre 90, verset 2. Si vous êtes belge ou suisse, c'est le psaume 4, chapitre 90. Oui, 90, merci Pierre. Je ne voulais pas que tu sois paumé. Hein. Alors, c'est... Il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, on a déjà parlé, parler du fait que Jésus-Christ est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu, trois dieux. Il y a un seul Dieu, la Trinité. Comment trois peut être un peut être trois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez, mes amis, des fois, en tant qu'être humain, nous nous prenons pour les grands. Nous croyons que nous devons tout comprendre. Et comme je vous ai déjà dit, à mon avis, un Dieu que je peux comprendre, tout à fait, il est beaucoup trop petit. Amen. Mon Dieu, il est tellement, tellement grand que je comprends, mais il dépasse ma connaissance aussi. Parce que des fois, j'ai besoin que mon Dieu, Thélès, il fait des choses qui sont plus fortes que mon petit cerveau, ou bien même si je crois qu'il peut le faire, il peut le faire. J'ai besoin d'un Dieu comme ça. Alors, d'abord, on apprend Dieu, Jésus-Christ, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, éternité, c'est combien d'années à peu près? Une éternité, c'est le temps qu'il faut pour ta femme quand elle se prépare pour aller à la réunion. Excuse-moi, c'est vrai. Ou bien, est-ce que c'est le temps que vous passez devant les feux rouges? Il y en a un qui, quand je passe par Reims, il m'a eu 9 fois sur 10. C'est une éternité. Mais éternité, c'est-à-dire, c'est au-delà du temps. Avant que le temps fût, Jésus était déjà. Et quand il n'y a plus de temps, parce que nous sommes des créatures maintenant recréées en l'image de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons vivre éternellement en Christ. Je ne parle pas de ce corps qui va périr, mais notre esprit et le nouveau corps que le Seigneur nous donne, ça va durer éternellement. Alors, de ce côté-là, moi, je comprends un peu. Mais comment? Quand j'étais jeune, le problème que j'avais toujours, c'était si Dieu, il a toujours été, comment est-il arrivé jusqu'ici? Parce qu'il me semble que ça va tellement, tellement, tellement loin dans ce sens. Mais là encore, on ne comprend pas tout à fait Dieu comment il est. Mais on parle ce soir de Jésus-Christ dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et je vous dis, il a un passé très long, notre Seigneur Jésus-Christ. Très, très, très long. Avant que le temps fût, avant que le temps existe, Jésus était là avec son Père. Avant que le monde soit créé, Jésus était déjà là, son Père. Le jour avant que le monde soit créé. La Bible dit en Jean chapitre 1, pour vous qui prenez les notes, chapitre 1, versets 1 et 2, au commencement était la parole. Si vous lisez tout le chapitre, vous voyez bien que la parole, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est assez clair ça. Pour ceux qui doutent que Jésus soit Dieu, la Bible dit que la parole était Dieu. Et si vous lisez le contexte, vous voyez bien qu'il appelle Jésus ici la parole de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et même avant que le monde soit créé, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire pour toi et pour moi. Parce qu'il dit en lui, Éphésiens chapitre 1 verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que ce monde soit en existence, il était là pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Jésus, je ne sais pas ce qu'il a fait avant la création. Il était avec son papa, son père. Et on peut imaginer les mondes qu'il a créés, les choses qu'il a faites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Mais un beau jour, pour nous c'était un beau jour, il a créé les cieux et la terre. Moi j'aurais bien aimé être là. Waouh! Est-ce que vous imaginez des fois, quand j'étais à Cor l'autre jour, le Cor Noir je crois, j'entendais. Oui Sylvain, Sylvain tu es là? Il n'est pas là, mais il travaille aux bases de Reims. C'est un avion de chasse qui commençait de décoller. Et vous sentez la puissance. Et moi, ça m'impressionne. Quand vous êtes sur un Airbus, un grand qui va décoller. Waouh, tu sens la pression et ça te fait quelque chose. Mais tu veux parler de la puissance. Mes amis, ça c'est un tout petit pétard. Tout petit pétard à côté de ce que Jésus a fait ce jour quand la Bible dit que la lumière soit. Par la parole de sa bouche, il a créé les cieux et la terre, la parole de Dieu dit. Et elle était la parole au commencement, Jean chapitre 1, verset 2, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus était là, dans la création, avec son Père, avec le Saint-Esprit, en train de créer les cieux et la terre. C'était un grand peintre, notre Seigneur. C'était un grand architecte. Et vous avez déjà vu les montagnes? C'était un grand architecte, notre Seigneur. Peintre de luxe. De luxe. J'étais à Monaco une fois. Ils ont un grand aquarium là-bas, au Monaco. Et là, c'était super chouette. Vous l'avez déjà vu? Combien? Vous avez l'aquarium de Monaco? Si jamais vous avez l'occasion, je le recommande. Je reçois un petit pourcentage de tous les billets que je vendais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais là, tu vois des poissons incroyables. Des couleurs pas inimaginables, mais tu peux imaginer le Seigneur dire et celui-là, et des fois, il a aussi un sens d'humour parce que tu vois certains poissons, ils sont un peu drôles. Et puis, des fois, tu dis, mais Seigneur, celui-là, pourquoi tu l'as créé? Parce qu'il est laid comme tout. Mais je suppose que le Seigneur a besoin des poissons laids aussi. Mais la couleur, vous allez en Afrique, par exemple. Là, vous voyez des fleurs que vous ne voyez pas ici. Toute la couleur. Quand j'étais au Kenya, moi, j'étais frappé par la couleur, par le, comment ça, il y a des variations dans les animaux. Quand on a fait une safari avec mon fils, waouh! C'était un petit campagnard qui dit, waouh, un éléphant, waouh, un lion, waouh, un zèbre, et tout ça. C'était fantastique. Et je peux imaginer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec toute cette grande imagination céleste, en train de créer les cieux et la terre. On dit, oh, le monde était un hasard. Et je dis, mais vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes bêtes? Oui, le monde est venu par une grande explosion. C'est incroyable ça. J'ai vu des explosions dernièrement à la télévision et je n'ai jamais vu une explosion qui crée quelque chose. Normalement, une explosion détruit quelque chose, n'est-ce pas? Mais voilà, on dit le monde a été créé par un Big Bang. Une explosion et toute cette ordre et toute cette beauté, toute cette perfection est venue d'une explosion. Vous êtes stupide ou quoi? Vous voulez que je croie ça? Soyez logique! On dit que la foi n'est pas logique. Moi, je crois que cette foi-là n'est pas logique. Moi, je crois que le monde a été créé, comme je vous ai déjà dit, par une big parole de Dieu. Amen. Jésus a dit et le monde existait. Jésus a dit et le monde existait. En Hébreux chapitre 1, verset 2, il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Au verset 10 du même chapitre 1. Et encore, toi Seigneur, c'est Dieu le Père qui parle à son Fils, qui, si vous voyez bien le contexte, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le grand potier qui a travaillé toute cette terre, tout cet univers, toutes ces beautés, toute cette perfection, il était là. On voit même Jésus dans l'Ancien Testament. On s'approche un peu après la création. On ne sait pas exactement quand c'était, combien d'années ça a été. Plusieurs ont donné des idées. Moi, j'ai aucune idée. Je sais seulement qu'il a fait. C'est seulement qu'il a fait. Et puis, troisième chose, là, dans l'Ancien Testament, il y en a même qui croient. Alors, moi, je dis pas oui, je dis pas non, je crois que c'est plus ou moins ça, mais que même le Seigneur est apparu dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange du Seigneur. On appelle ça des théophanies. C'est un mot français, ça, les théophanies, quand le Seigneur, quand Dieu s'est révélé à l'homme. Alors, vous voyez plusieurs fois dans l'Ancien Testament, par exemple, quand, en Genèse, là, quand il y avait trois anges qui sont venus à Abraham, et ils lui ont parlé de ce qui allait se passer pour Sarah. Et puis, plus tard, ils lui ont dit, mais écoute, voilà ce qui va se passer pour la ville de Sodome et Gomorrhe, là. Mais on voit bien qu'un de ces anges était plus qu'un ange. Était plus qu'un ange. Parce qu'il parlait comme Dieu. Alors nous savons bien que Dieu le Père, on ne le voit pas. La Bible dit qu'aucun être humain peut voir le Père. Mais c'est le Fils qui est venu sur terre. Alors ce n'est pas son incarnation, pas encore. Mais si c'était Jésus, on ne sait pas. On suppose peut-être que c'était lui en tant qu'ange du Seigneur. Mais quand on dit ange, on ne parle pas de sa nature. On parle de sa mission. Parce que le mot ange, ça veut dire messager. Alors, il y a des créatures que Dieu le Père a créées. Ce sont des anges. Okay? Et la nature, comme vous et moi, pour la plupart, nous avons la nature humaine. Bon, bah, pour 100%, je crois. Alors, il y a des bêtes qui ont de la nature animale, des insectes qui ont la nature des insectes. Et les anges sont un autre ordre de création qui ont un autre esprit. Qui sont une autre sorte de création. Alors, Dieu, il est encore une autre. Ben, il n'est pas créé, il a toujours été, éternellement. Alors, quand il dit l'ange du Seigneur, ben, on parle du Seigneur Jésus-Christ, si c'était le Seigneur Jésus-Christ, ça ne parle pas de sa nature. Parce qu'on voit bien, dans certaines situations, si on avait le temps pour en parler, que c'était Dieu qui parle. Mais c'était, évidemment, Jésus qui est venu en mission. On voit avec le roi de Salem, de Jérusalem, là. Et il s'appelait Melchizedek. Et on parle comme lui. Alors on fait une comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'était le Seigneur dans une autre forme, je ne sais pas. Alors, il y avait le capitaine des armées du Seigneur qui est apparu à Josué avant qu'il commence la bataille pour le pays des promesses. Et on voit bien que cet capitaine des armées de Dieu, ça semblait être Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, je crois. Parce qu'on voit un peu plus tard dans la Bible, à la fin de l'Apocalypse, chapitre 19 et verset 11, on voit le capitaine des armées du Seigneur sur un cheval blanc qui revient du ciel pour détruire ses ennemis. On ne sait pas, mais on croit, on suppose que peut-être dans l'Ancien Testament, là, il y avait des apparitions de Dieu, des théophanies, si vous voulez, et ça se peut que c'était le Seigneur Jésus-Christ. On voit quand même Jésus présagé dans l'Ancien Testament, on voit des images du Seigneur Jésus-Christ là. Alors, ça, je ne vais pas entrer en détail parce qu'il y a un autre qui a ça, mais on voit Abraham qui offre Isaac sur la montagne là. Bon, il ne le fait pas, mais disons, il a été commandé de le faire au dernier moment. Disons, c'est Dieu qui lui avait donné quelque chose dans sa place, un agneau, un bélier pour offrir. Mais là, en image, Abraham a offert son fils. Et c'était en hébreu, j'ai un trou maintenant. C'était là qu'il a dit en image, ou bien il l'a sacrifié, comme Jésus a été sacrifié par son père. Et puis il a été ressuscité, comme de Jésus a été ressuscité. Alors, on voit l'image. Ésaïe chapitre 53, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est qui? C'est de qui ça parle? Amen. On voit dans le psaume chapitre 22 une prophétie de sa mort et sa résurrection. Le psaume chapitre 2 et verset 7, il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est enfin le Père qui affirme son Fils Jésus-Christ. Il dit, le psaume chapitre 45 et verset 7, « Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle du Fils ici et il appelle Dieu. Et un peu plus tard, vous voyez de nouveau, comme je dis en Hébreux chapitre 1, c'est Dieu le Père qui parle de son Fils. Il appelle Dieu. Alors si Dieu le Père appelle son Fils Dieu, qui suis-je pour dire qu'il n'est pas Dieu? Amen. Qui suis-je pour inventer des doctrines des hommes? Comment Dieu peut être un seul Dieu? Il est. Comment il peut être Fils, Père, Fils et Saint-Esprit, mais seulement un seul Dieu? Je ne sais pas. Comme tu dis, je ne comprends pas tout ce qu'il y a à comprendre en ce qui concerne Dieu. C'est pour cela que nous aurons une éternité. Parce que chaque jour de l'éternité, Eric, je crois que Dieu, il va me révéler une autre facette de sa grandeur. Et mon esprit va élargir tous les jours. Peut-être, je ne sais pas si je vais tout savoir tout de suite, ou bien chaque jour, je vais voir autre chose de Seigneur Jésus-Christ. Il y a des prophéties de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est encore un autre message. Mais je crois que l'Ancien Testament parle de lui. On a dit que dans l'Ancien Testament, il y a 300 prophéties de sa première venue et 500 de sa deuxième venue. Georges Héron, un mathématicien français, a calculé que la probabilité qu'un homme pourrait accomplir même 40 de ses prophéties dans sa personne, la probabilité de ça, c'est 1 suivi par 157 zéros. 1 suivi par 157 zéros. C'est-à-dire, c'est un nombre assez large, n'est-ce pas? Le fait qu'une personne peut accomplir 40 prophéties de l'Ancien Testament comme ça en sa personne. Les chances que ça arrive, c'est 1 suivi par 157 zéros. Beaucoup. C'est incroyable si ça arrive. Et il y a 300 prophétie de sa première venue à Bethléem. 300 dans la personne de Jésus. Et puis, on voit Jésus un peu plus tard, l'incarnation du Seigneur. La Bible dit, en Jean chapitre 1 et verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » De tous les miracles du Seigneur, de tout ce que Dieu ait jamais fait, pour moi, un des plus grands miracles que Dieu ait jamais fait, c'est le fait qu'il est devenu homme. Le fait qu'il soit né à Bethléem. Toujours Dieu, mais celui qui était Dieu 100%. Aussi homme 100%. Il avait un Père céleste par un miracle de Dieu, pas par un acte sexuel, mais par un miracle de Dieu. Jésus, le Fils, a été conçu dans le sein de Marie. Et là, il était humain à cause de sa mère, mais il était divin à cause de son Père. Et il n'a pas commencé son existence à Bethléem il y a 2000 ans, parce qu'il existe éternellement, mais il est devenu Dieu. Pour nous, ça c'est incroyablement difficile à comprendre. Comment un Dieu si grand, plus grand que l'univers, un Dieu qui est capable de tant de choses, comment peut-il venir en forme d'un petit être humain, Jésus-Christ? Est-ce que ce bébé à Bethléem, qu'on va célébrer sa naissance bientôt, est-ce que ce bébé-là était Dieu? Tu dis, David, comment? Pour moi, c'est un peu comme le miracle de la création. Vous savez combien il est grand, la création, n'est-ce pas? On dit, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais on dit, si vous pouvez traverser l'univers d'un côté à l'autre, ça vous prendra 14 milliards d'années de lumière. Alors c'est assez long, n'est-ce pas? 14 milliards d'années de lumière. C'est-à-dire la distance que la lumière voyage dans une année multiplié 4 milliards de fois. S'il est possible de traverser l'univers, il vous prendra autant de temps pour traverser l'univers. Alors, elle est grande l'univers. Amen. Elle est grande, énorme. Mais on dit, je ne sais pas, encore je n'ai pas fait l'expérience, mais on dit que sur la création, là, l'homme, il est un peu mi-chemin. C'est-à-dire, autant que l'univers est plus grand que l'homme, il existe des choses qui sont autant plus petites que l'homme. C'est-à-dire, moi, je suis mi-chemin. La création est beaucoup, 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 beaucoup plus grand que moi. Mais il y a des choses plus petites que moi, tellement plus petites que moi, pour eux, je suis comme l'univers. C'est incroyable, n'est-ce pas? Par exemple, sur votre peau ce soir, vous avez des petites bêtes qui grimpent partout. Probablement des milliers de petites bêtes qui grimpent, ils mangent de peau morte. Là, ils sont dans vos oreilles, ils sont dans vos yeux, dans vos cheveux. Tout le monde commence à gratter maintenant. Je vais prendre un autre bain, je crois. Mais c'est vrai, vous ne les voyez pas, mais si vous avez un microscope, vous les voyez. Tellement. Il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites que ça. Et c'est pour comme cela, parce que, tu sais, les miracles ne sont pas toujours en grandeur. Les miracles peuvent être en petitesse aussi. Et pour moi, le plus grand miracle, c'est un Dieu si grand, est entré dans notre existence en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas seulement, si c'était l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, était Jésus-Christ, il est venu pour visiter. Mais quand il est venu dans le sein de Marie, il est venu pour goûter la vie comme nous le goûtons, pour expérimenter tout ce que nous expérimentons, pour faire partie de tout ce qui nous touche. Il était exactement comme nous, sauf il n'a jamais péché. Sauf il n'a jamais péché. Il était Dieu. Il n'avait pas cette tâche de péché qui venait des fils d'Adam, parce que dans la Bible, si vous voulez, l'héritage, ça passe par le père en fils, en fils, en fils, en fils, comme ça. Il avait un père céleste. Alors, il n'avait pas cette tâche de péché originel d'Adam de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il n'avait pas la tâche de son propre péché non plus. Il était sans péché. Dieu devenu chair. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu ne change pas. Je crois que sa nature est toujours la même depuis l'éternité. Et dans sa pensée, dans sa volonté, il avait déjà fait ce qu'il allait faire depuis l'éternité. Mais ce jour-là, est-ce que vous avez jamais pensé que quand Jésus s'est revêtu d'une chair, bon, s'est revêtu, c'est peut-être pas une bonne expression, mais quand il est devenu chair, Dieu est devenu chair, dans le ciel maintenant, il y a quelqu'un comme nous. C'est un humain. Je ne sais pas exactement que. Oui, je crois qu'il. Parce qu'il a toujours un corps céleste. C'est-à-dire, il est devenu ce que nous allons devenir physiquement. La Bible dit à la résurrection, nous aurons un nouveau corps qui va durer éternellement. Ce corps qui va redevenir une poussière un jour si le Seigneur tarde dans sa venue, ou bien ce corps qui peut être détruit en mille morceaux, mais ce corps va revêtir l'immortalité. La Bible dit, comme Jésus l'a déjà fait. Alors, son corps a été tué, il a été ressuscité en puissance avec ce corps immortel. Il est toujours attaché à nous, mes amis. C'est toujours notre frère aîné. Et pour moi, c'est tellement, tellement merveilleux, parce qu'il n'y a pas un Dieu là-haut qui ne peut pas comprendre ma condition, mais en toute chose, il a souffert comme moi, il a vécu comme moi, il sait ce que ça veut dire, avoir faim, avoir soif, avoir des difficultés, avoir des épreuves, d'être méprisé par les autres. La seule chose qu'il n'a pas goûté dans ce sens-là, il n'a pas péché lui-même, il a porté nos péchés. Il a vécu une vie, il a mené une vie parfaite sans péché. Il a dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Là, à la croix de Calvaire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté nos péchés Celui qui n'avait pas connu le péché, parce qu'il n'avait jamais péché, il n'avait pas le tâche de péché dans ses gènes, si tu veux. Il n'avait jamais péché lui-même, mais là, à la croix de Calvaire, il a quand même connu le péché dans le sens que tout le péché qui ait jamais été fait, toi et moi, a été mis sur lui à la croix de Calvaire. Des fois, je vois des films, j'ai lu un livre l'autre soir, c'était ça, et les deux héros là, et il devait se cacher. Alors, il se planquait là quelque part, mais c'était une pocherie là où ils se sont planqués. Alors, il y avait vraiment de la boue. Et vous savez, même, parce que je sais qu'est-ce que c'est une pocherie. L'odeur, c'est horrible. Et pour se planquer dans un endroit comme ça, j'ai l'idée que, oh là là, je ne peux même pas supporter l'idée d'être plein de boue et d'odeur. Et je ne décris pas quoi d'autre qui est là-dedans. Mais de toute façon, je ne peux pas imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer celui qui n'a jamais péché, qui portait le péché, qui a été touché, qui avait ce charge de péché, le plus horrible, le péché d'Adolf Hitler était celui, le péché du monde entier. Ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé, mais le potentiel est là pour tout le monde qui se repente, qui demande pardon, parce que c'était nos péchés qui nous ont séparés du Père. Et dans l'Ancien Testament aussi, nous voyons une image de Jésus-Christ quand il venait dans le temple pour offrir un sacrifice. Il fallait offrir un agneau sans tache. Il fallait offrir un agneau qui n'était pas malade, qui n'avait pas d'imperfection, qui voulait le dire que le seul offrant qui peut compter pour vous, c'est une offrande sans tache, ni ride, ni péché. Et le seul qui ait jamais vécu comme ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas trois solutions. Soit Jésus prend nos péchés sur lui, soit Jésus soit puni pour nos péchés, soit Jésus meurt pour nos péchés, ou nous mourrions éternellement, éloignés de Dieu pour notre propre péché. Et nous étions tous pécheurs, loin de Dieu. Et Dieu a mis tous nos péchés sur le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien des histoires qui terminent bien, n'est-ce pas? Vous savez, les Américains, ils sont un peu, peut-être enfantins, parce que je n'ai jamais, jamais aimé une histoire où l'héros a été tué à la fin. Pour moi, j'ai mal. J'ai vu un film et ça m'a beaucoup touché. Même ici, c'était de la Première Guerre mondiale, où il y avait un soldat qui s'appelait Berceau. Et Berceau, c'était un brave soldat, un courageux soldat. Là, il avait essayé de sauver son supérieur. Mais parce qu'il ne voulait pas porter un pantalon qui était déchiré et enlevé d'un mort. C'est une histoire vraie, enfin, ça est arrivé pas loin d'ici. Il ne voulait pas porter ce pantalon, je crois qu'il était même taché de sang et déchiré. Il a dit non, je ne le fais pas. Son supérieur l'a fait fusiller, parce qu'il a refusé de porter ce pantalon. Et à la fin, il dit, oui, je le fais. Mais le supérieur, il voulait vraiment faire de lui un exemple. Alors, il a fusillé. Deux personnes ont essayé un tout petit peu parler pour lui. Il leur a donné 5 ans de travail forcé, parce qu'ils ont parlé pour cet homme. Pour moi, cette nuit-là, quand j'essayais de dormir, sachant que c'était une histoire vraie, j'avais mal à dormir. Je sais que c'était notre âge et tout ça, mais j'étais tellement frustré parce que le garçon était tellement courageux. Et je me dis, mais ce leader-là, il est vraiment... Pour lui, c'est une bête, c'est pas un être humain. Et c'est quand tu tues ton ennemi comme ça, c'est déjà mauvais. Mais si tu fais ça à un de tes propres hommes qui se donne pour dire, oh, j'étais frustré. Alors, moi, j'aime pas des films qui termine mal. Moi, j'aime bien que le cowboy, il prend la fille. Et, bon, d'abord, il doit tuer le mauvais. Il prend la fille, il monte à cheval et il part vers le soleil couchant. Ça, pour moi, ça, c'est un film. Hein. Vraiment. Ouais. Je peux vous dire quelque chose. Cette histoire de Jésus, elle termine bien. Enfin, elle n'est pas encore terminée. Parce que le troisième jour, alléluia, Oh là là, vous croyez que c'était une puissance qui a créé les cieux, la terre. La même puissance est entrée dans ce tombeau-là en Israël, a trouvé le corps, a trouvé le Fils de Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité, il a écrasé la tête du diable. Mes amis, il est monté en haut à la droite de son Père et là il vit éternellement. J'aime bien les histoires qui finissent bien, bien. Hein? Il a dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur? Est-ce qu'il est là au ciel en train de boire du thé? Manger des gâteaux? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a, il fait certaines choses. Il est à la droite du Père céleste, sur le trône. D'abord, il s'est assis sur le trône. Vous savez pourquoi il s'est assis? Parce que le travail a été fini. Combien d'entre vous, quand vous étiez jeunes, vous étiez obligés de travailler dans le jardin par vos parents? Laisse-moi voir votre main. C'est vraiment de l'abus, moi je crois, que quand les parents vous obligent de travailler dans le jardin. Ah. Combien d'entre vous, peut-être vous avez été obligé par vos parents de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Laissez-moi voir votre main. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est triste cette histoire, n'est-ce pas, nos parents? Et si, avant de terminer ce travail que vos parents vous avaient donné, vous vous êtes assis là devant la télévision pour regarder votre bande dessinée préférée. Qu'est-ce qui vous serait arrivé? Maman, il sera venu, on dit, oh chérie, c'est bien que tu regardes les bandes dessinées. Voilà, un Coca-Cola et des cookies. C'est ça qui vous serait arrivé? Non, je crois qu'on aurait eu une petite explication, n'est-ce pas? Et bon, si c'était chez vous, quand c'était chez moi, c'est maman qui aurait gagné la bataille. Vous ne vous asseyez pas jusqu'à ce que vous terminiez le travail, n'est-ce pas? Et mes amis, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui travaillent pour être sauvés. Et Jésus-Christ, à la croix de Calvaire, à cette croix, il a déjà fini le travail. Il a tout fait pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés de nos péchés, nés de nouveau, pour que nous puissions devenir justes et les enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous allons le devenir, mais nous le sommes déjà, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, suite à notre foi en Jésus-Christ. La Bible dit, il est aussi là, en train de prier pour toi. Toi, tu croyais que Dieu était contre toi. Toi, tu avais peur de Dieu. Nous, des fois, en tant que chrétiennes, quand nous faisons une erreur, on a peur. On dit, oh là là, Dieu ne m'aime plus. Ou bien Dieu l'a vu. Et bon, c'est vrai. Mais en plus, est-ce qu'il est contre toi? Il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Alors, un avocat, il fait quoi? Il parle pour toi devant le juge, n'est-ce pas? C'est le Fils que. Et il dit, je ne veux pas que tu pêches. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais si ça vous arrive, il ne faut pas rester éloigné. Il ne faut pas penser que Dieu ne vous pardonne pas. Mais il faut que vous vous approchiez. Et au lieu de parler contre toi, au lieu de te condamner, c'est Jésus-Christ, ton frère aîné, qui est au ciel ton avocat, qui est gratuit en plus. C'est vraiment un miracle aussi. Qui parle pour toi, n'est-ce pas? Il est pour toi. N'est pas contre toi. La Bible dit en Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Même les chrétiens, les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils viennent au Seigneur. Là, Jésus-Christ est vivant. Et quand il dit, Père, pardonne-moi mes péchés dans le nom de Jésus, je me repente, je me détourne de mes péchés. Là, le Fils est en train de dire, oui, Père, Papa, oui, Père, pardonne-le à cause de ce que j'ai fait à la croix de Calvaire. Ah, mes amis, nous sommes bénéficiaires d'une bénédiction incroyable dans le ciel. Il a dit en parlant des élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible dit aussi en Hébreux chapitre 1, verset 3, verset 13, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La main droite, ça parle de la proximité. Alors Pierre, ça va toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Je peux te donner quelques milliers d'euros, quelque chose comme ça. Tu as besoin de quelque chose? Ouais, c'est bien. Je n'en ai pas, mais quand même. Celui qui a la droite, c'est la proximité. Est-ce que vous avez jamais remarqué, si vous arrivez, vous avez besoin de quelque chose de la ville, par exemple. Si vous avez un ami qui travaille pour la ville, ou bien un ami qui est haut placé là, lui, il peut vraiment faire en sorte que votre demande, ça va beaucoup plus vite. Mais si vous n'avez pas des amis, et vous avez des ennemis là-haut, ça va nulle part. Alors, est-ce que ça vous fait quelque chose que sur le trône de l'univers, vous avez quelqu'un qui est assis juste à côté de celui qui est le chef de tout, qui a son oreille, et le chef de tout, Dieu Tout-Puissant, il aime ce fils de tout son cœur. Il est parti de lui. Ils sont un. Et Jésus, il parle pour nous. Il prie pour nous. Il a la main droite. C'est la main de faveur, la main droite. La main de puissance. C'est la position d'intercession. Et qu'est-ce qu'il fait encore, Jésus? Bon, je suppose, c'est, comme tu dis, je ne sais pas s'il boit du thé ou non, mais je sais une chose qu'il fait. Il tient tout ensemble. Et je suis content, hein. Parce que je crois que si le Seigneur ne fait pas son boulot, mon bras allait dans ce sens, ma jambe allait dans ce sens, tout le monde explose. Beaucoup de monde, ils ont peur que ce monde va exploser dans du grand et on va se tuer. Pas avant que Dieu le dise. Parce qu'il y en a un sur le trône qui tient ce monde ensemble. La Bible dit en Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, dominion, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Notre traduction dit, par lui, tout est tenu en cohésion. Tout est tenu en cohésion. Il y a un principe de physique qui fait en sorte que les cellules de votre corps ne se détachent pas pour flotter à droite et à gauche. C'est bien, je suis content que ça reste ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes content que vous êtes bien collés? Amen. Alors, autrement, votre tête, oh non, votre cheveux vont partir, et puis en haut de votre tête, et puis votre cerveau, ça va pas être beau. Vous êtes content de ce principe physique, n'est-ce pas? Moi, je suis content aussi qu'il y en a un sur le trône qui tiennent toutes choses ensemble, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, des fois, nous croyons que tout est déréglé. Et c'est vrai que Satan, il travaille d'arrache-pied pour détruire. Mais mes amis, il peut aller jusqu'à un point. Et ce que Jésus est en train de faire, tout ce que le diable fait pour le mal, Jésus est en train de le tourner pour le bien. Il fait ça dans son plan. Le monde n'est pas déréglé, mes amis. C'est bien ordonné par le Seigneur Jésus-Christ. Il est chef de l'Église maintenant. Il a, Éphésiens 1, 22, il a tout mis, en parlant de Dieu le Père, il a tout mis sous ses pieds, parlant de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, je n'ai pas vraiment le temps pour aller en détail de ce qui va arriver. Je vais faire tout très vite. Mais dans le proche avenir, moi, je crois que Jésus va revenir pour son Église. Il ne le croit pas, Pierre. Crois pas, Philippe, parce que tu sais, s'ils croyaient vraiment, ils seront debout en train de « Wouhou, Jésus revient, amen !» Amen. On a oublié. Amen. Pour quand j'étais jeune, j'avais peur. Oh là là. Si j'allais chez grand-mère quand j'étais ado, et grand-mère n'était pas dans la maison, moi, je cherchais jusqu'à ce que je trouve grand-mère. Et vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur que le Seigneur l'avait pris dans l'enlèvement de l'Église et moi j'étais laissé. Ah, j'avais peur. Mais la Bible parle. Il dit que le Seigneur va revenir pour son Église. Bon, il y a toutes sortes de façons d'interpréter cela. Moi, je crois, notre Église croit que Jésus vient avant une période qui s'appelle une grande tribulation de 7 ans qui va tomber sur le monde pour éprouver le monde, pour vraiment, ça va être horrible. Mais Jésus vient pour son Église. Et la Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je vote pour cela. Amen. Oh Seigneur, si tu veux le faire, allez-y. Allez Seigneur. La seule chose qui me tient ici, mes amis, moi je veux voir d'autres personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois mes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur m'a réprimé cette semaine de nouveau de mon attitude vis-à-vis les perdus. Je suis en train de lire un livre, enfin je l'ai terminé, mais le frère parlait de son papa mourant, son papa qui était toujours pasteur dans les petites églises. Et qui avait une telle vision pour les perdus. Il a dit que son papa, il a emmené des équipes missionnaires partout dans le monde. Ils avaient construit 150 églises dans des différents endroits du monde. Il a dit que son papa, à la fin, il mourait d'un cancer et il était seulement le mortier là. Et il parlait, alors il revivait dans sa tête des choses parce que la réalité et ce qui s'est passé, c'était un peu mélangé pour lui. Tout était là. Le fils, il a dit, enfin j'ai entendu un peu l'histoire de papa là. Il a dit, à la fin, il commençait à dire, mais je dois gagner un autre âme. Il essayait de se lever de son lit. Il dit, je dois gagner un autre âme. Je dois gagner une autre âme. Ils ont dit, mais calme-toi, papa, calme-toi. Il dit, je dois gagner une autre âme. Je dois gagner encore et encore. Pendant presque une heure, il dit, je dois gagner une autre âme. Je dois gagner une autre personne pour Jésus. Je dois gagner une autre personne pour Jésus. Son fils, qui est aussi pasteur, il a dit, moi, j'ai coupé la tête. J'ai commencé à pleurer et prier. Il dit, le vieux papa, il a mis la main sur sa tête. Il a dit, gagne une autre âme pour Jésus. Gagne notre âme pour Jésus. Et moi, je me suis dit, oh Seigneur, combien il est facile pour moi de mener ma petite vie quand le monde fond en enfer sans le Seigneur. Mes amis, c'est sérieux. Jésus revient. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pour le monde, c'est une nouvelle horrible de ce qui va tomber sur la terre. Et pour les gens qui meurent sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, dernièrement, l'année passée, mon voisin, j'avais essayé de lui rendre témoignage 2-3 fois, mais c'était difficile. J'avais dit quelques petites choses, et comme ça, je ne savais pas s'il a compris. Il était dans l'hôpital, vraiment, vraiment malade. Et je me dis, oh Seigneur, écoute, moi, il va croire que je suis fou, je ne sais pas quoi, mais j'y vais, parce que c'est trop important de l'âme de cet homme. Et je suis allé à l'hôpital, là, et je dis, Georges, écoute, mais on va prier. Et j'ai un peu prié l'évangile pour qu'il puisse l'entendre. Et puis, lui, j'attendais pas. Il commençait à prier. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Est-ce qu'il a vraiment cru? J'espère de tout mon cœur. Parce qu'il est mort pas trop longtemps après cela. Mais mes amis, je sais pas vous, mais il est tellement facile pour moi de m'occuper de mes petites pommes de terre. Et oublier ce monde qui meurt sans le Seigneur. Jésus revient. Ce monde ne connaît pas le Seigneur. Et c'est horrible. C'est une chose horrible de mourir sans le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Alors, moi, je termine. Il s'agira de 2 Corinthiens 5 et 10. Je crois que Philippe va vous donner les notes après. Il s'agira au siège de jugement. Et puis, il y aura le règne de 1000 ans, dans le millénium là. Et puis, il règne éternellement avec son Père, avec son Église. Ensuite viendra la fin. En Corinthiens chapitre 15, verset 24, quand il remettra, en parlant de Jésus, le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est-à-dire, la victoire de Jésus va être totale dans ce monde, mais aussi dans le monde invisible, contre les démons, contre les principautés, contre les puissances, contre tout ce qui se lève contre le nom de Dieu. Il va, la victoire va être totale, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds en parlant de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté, Dieu le Père. Et lorsque toute chose lui aurait été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu? Non, ça ne veut pas dire tout ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont en égalité. Ils sont un en nature. En position, Jésus, il s'humilie devant son Papa. Le Saint-Esprit, ils sont soumis au Père. Est-ce que ça veut dire qu'il est inférieur? Non. Ça veut dire la position il prend, c'est qu'il s'humilie devant son Papa. Tout comme dans une armée, tu as des simples soldats qui sont plus intelligents que les généraux, n'est-ce pas? Si Sylvain était ici, il dirait Amen. Mais ça n'a rien à faire avec la nature. Ils sont tous des êtres humains. Mais tout, chacun, il a sa place. Et le Fils se soumet au Père. Et puis, il y aura un royaume éternel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » J'aime bien le verset 4. « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Et il parle juste de dernier verset que je veux lire. Il parle de qui est là. « Je ne vis point de temple dans la ville. » Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. C'est qui l'agneau? Jésus. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Vous voulez savoir qu'est-ce que Jésus sera pour l'éternité? Il sera la lumière de la ville céleste. Il va briller tellement, tellement fort que le soleil, ce n'est rien. On ne peut même pas regarder maintenant le soleil en face. Mais là, ce jour-là, on aura de nouveaux yeux. On aura besoin. Parce que Jésus, il va briller plus fort que le soleil, notre Seigneur. Celui qui a toujours été, le sera toujours. Et nous serons son peuple, éternellement avec lui. Jésus, passé, présent, futur. Oh là là, quel Dieu, quel Seigneur! Quel sauveur, quel rédempteur que nous avons, mes amis. Ah, je suis content que j'ai un Dieu comme ça. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta présence. Alléluia. Seigneur, je n'ai jamais compris pourquoi tu m'as aimé, parce que je n'étais pas aimable. Quelque part, je me détestais moi-même. Mais là, tu m'as pris en amour. Et toi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu es venu sur cette terre pour mourir pour mes péchés. Pour ressusciter. Et Seigneur, tu n'es pas arrêté là. Tu es à la droite de ton Père. Tu pries pour moi en ce moment. Et pas seulement moi, Seigneur. À chacun et pour chacun. Pour chacun. Qui confesse le bon nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela que nul autre nom a été donné parmi les hommes, parmi lesquels, par lesquels nous devons être sauvés, sauf le nom de Jésus. Seulement Jésus. Seigneur, c'est toi le sauveur. Restons un tout petit moment dans la prière. On va passer un moment dans la prière. Mais juste avant de prier, j'aimerais bien vous poser une question. Personne ne regarde à droite et à gauche. Mais ce soir, vous êtes ici et vous dites, « Oh David, j'entends l'évangile, j'entends parler du Seigneur Jésus-Christ. » Et moi, je me rends compte que moi, je veux servir Jésus. Moi, j'en ai assez de mes péchés. J'en ai assez de vivre pour moi. Moi, je veux une nouvelle vie en Christ Jésus. Je veux la joie du pardon du péché. Je veux que ce Rédempteur vit dans mon esprit, dans mon cœur. Je veux avoir cette promesse de la vie éternelle. Je veux avoir un Dieu qui prie pour moi tous les jours, qui intercède pour moi. Oh, s'il te plaît, ce soir, si ça c'est vous voulez dire, moi, je veux mettre ma confiance en Jésus. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux avoir Jésus comme sauveur. Je n'ai pas encore commencé cette relation avec Dieu. Mais ce soir, maintenant, je veux le faire. Lèvez la main tout en haut et je prierai pour vous. S'il vous plaît, amen. Lèvez la main. Moi, je veux commencer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des autres? Amen. Je veux commencer cette vie. Amen. Avec Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous voulez aussi lever la main, vous joindre ceux qui ont déjà levé la main en disant, moi, je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y en a quelques-uns déjà debout qui disent, moi, je veux recevoir le Seigneur. Est-ce que vous voulez aussi, si vous voulez recevoir Jésus comme sauveur, là, à votre place, mettez-vous debout. On va prier tous ensemble maintenant. Je crois que Jésus va faire une belle chose dans ta vie ce soir, suite à ta foi en Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un autre qui veut se lever juste avant qu'on prie? Je sais que c'est l'étude biblique, mais je crois que le Saint-Esprit nous dirige dans ce sens. C'est le moment. Jésus est là. Il veut le faire. Oh là là, il vous aime tellement, tellement, tu veux, tellement précieux pour le Seigneur. Il est là pour faire une chose merveilleuse dans ta vie. Que vous qui êtes debout, nous allons tous prier. La Bible dit que quiconque fait appel au nom du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ce soir, je vous invite, pendant que je prie, vous aussi, vous dites, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Entre dans ma vie maintenant. Purifie mon cœur. Seigneur, prends-moi. Entre par ton esprit. Dès maintenant, je suis 100% de toi. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Moi, je suis à toi. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici, dans cette salle, soit debout, dans la place, qui prie de tout cœur, qui dit, Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur, que tu les pardonnes au nom de Jésus-Christ, Père. Par cause de ce que tu as fait à la croix de Calvaire, tu as déjà porté ces péchés, Seigneur. Et maintenant, tu le pardonnes le péché. Tu le purifies. Tu les purifies dans le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas que ton esprit entre dans le cœur, parce qu'il se tourne de la vie d'égoïsme, Seigneur. Il se tourne vers toi pour te servir, Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je reçois le Seigneur. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Dès maintenant, je vais te servir. Dès maintenant, je vais te servir. Dès maintenant, je vais te servir. Je suis à toi, Jésus. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné cette vie éternelle. Oh, Seigneur, il y a quelque chose de Dieu qui est entré en moi ce soir. La vie éternelle, Seigneur. Et même quand ce corps physique est mort, Seigneur, mon esprit vivra éternellement avec vous jusqu'au jour de la résurrection, Seigneur, quand j'aurai un corps éternel comme le tien, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit loué. Que plusieurs personnes lèvent la voix dans la réunion maintenant. Et louez le Seigneur. Si vous avez un besoin, vous présentez ce besoin au Seigneur. Et d'abord, tous ensemble, louons le Seigneur. Et puis individuellement. Alléluia.